Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
Ah, ça va me coûter combien ?
Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros.
Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement.
Nous ne sommes pas en guerre.
C'est ma marque de fabrique. J'ai toujours dit la vérité aux gens.
Nous sommes en guerre.
La liberté d'expression, c'est un bien précieux. Et j'y tiens comme chacun de nous. Mais...
Entendez-vous le bruit sourd des moutons le soir au fond des plaines quand on leur parle de la liberté d'expression ? La liberté, oui, mais... Eh bien, nous, ici, à Sud Radio, et à Berkov, dans tous ces états, on ne mégote pas avec la liberté, on ne négocie pas avec la liberté. Elle est effectivement indivisible, elle est sans frontières. Il faut bien comprendre ça, sinon, rejoignez effectivement l'enclos. Alors, nous allons parler avec Virginie Joron, députée européenne du groupe Identité Démocratie, de ce qui se passe avec la Commission européenne, avec les contrats avec les laboratoires pharmaceutiques, avec le pass, le QR code, le pass d'identité européen qui est en train de se faire avec la Pologne. Tout cela, et oui, pendant la guerre, l'autre guerre continue. Et nous allons en parler longuement avec Virginie Joron. Et puis, nous allons parler de BlackRock. Vous avez peut-être entendu parler de BlackRock. Non, ce n'est pas un nouveau groupe de rock, pas du tout. C'est le plus gros fonds d'investissement, le plus gros fonds de pension du monde, le géant absolu, BlackRock, des milliers de milliards de dollars à gérer. Alors, comment ça se passe? Comment ça impressionne? À côté, je vais vous dire, vraiment, entre nous, McKinsey, c'est un nain. À côté de BlackRock. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va aussi en parler, vous éclairer, parce qu'on est là pour vous éclairer, pour nous éclairer. Et puis, nous allons recevoir aussi Philippe Bornet, qui est essayiste, et qui va parler de la tyrannie. Aujourd'hui, la tyrannie, mais non. Mais enfin, Philippe Bornet, on n'est pas en tyrannie. Ah, c'est plus compliqué que cela, paraît-il. Eh bien, nous en parlons tout de suite et de tout.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Vous connaissez évidemment le célèbre vers de la fable de La Fontaine, deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. Là, il ne s'agit pas de pigeons, pas du tout, c'est même le contraire. C'est Ursula et Bourla qui s'aiment d'amour tendre. Ursula von der Leyen, bien sûr, présidente de la Commission européenne. Bourla, Albert de son prénom, PDG de Pfizer. Et oui, on les a vus se congratuler, s'embrasser, se câliner, et pourquoi pas. Attention, rien sur la vie privée, mais en revanche, des échanges de SMS, des accords. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, pas seulement ça. Le pass, le QR code, les contrats conclus avec les laboratoires, etc. Quelle opacité! Quel manque de transparence! Ah bon? Eh bien, on en parle, oui, avec Virginie Joron, députée européenne. À tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Évidemment, vous avez reconnu Beethoven, évidemment, la 9e symphonie devenue la l'hymne européen. Alors, il se murmurait, Beethoven était sourd. Est-ce qu'il n'y a pas, dans cette surdité du génial musicien, quelque chose qui s'est transmis, mais de manière peut-être un peu négative, dans l'opacité vis-à-vis des tractations européennes? Virginie Joron, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes, je le rappelle, évidemment, pour ceux qui ne le savent pas encore, mais je crois que tout le monde le sait, vous êtes députée européenne du groupe Identité et Démocratie, et vous êtes beaucoup intervenue justement sur ces questions de transparence et autres. Deux choses avant de vous donner la parole, et les questions que j'ai à poser, il y en a beaucoup. En janvier dernier, vous tweetiez, Virginie Geron, plus de la moitié des 4,2 milliards de doses contre le Covid-19 achetées ou réservées par l'Union européenne sont fournies par le duo américano-allemand Pfizer-BioNTech. Ce refus par la commission de transmettre les SMS échangés entre le PDG de Pfizer, Bourla, et Mme von der Leyen, Ursula, est grave, disiez-vous. Alors, en même temps, et dans le même temps que vous le savez, les députés verts, députés européens verts, avec Michel Rivasi, des Luxembourgeois, des Allemands, ont, le 22 avril, ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour demander l'accès à l'entièreté des contrats conclus avec les laboratoires pharmaceutiques, levant l'opacité. En même temps que la Pologne, on le sait, est en bataille juridique contre Pfizer, ne veut pas payer effectivement les vaccins Pfizer que l'Union européenne lui demande de commander. Alors, juste pour serrer les problèmes, Virginie Geron, d'abord vous, est-ce que cette histoire quand même de contrat, on l'a suivi, on l'a sait depuis des mois, que vous avez eu accès aux contrats, sauf qu'ils étaient noircis, tronqués, etc. Qu'en est-il exactement ?
Oui, bonjour et merci de me donner la parole concernant ce sujet très important, parce qu'en fait, c'est l'image même de la Commission dans toute la gestion de que ce soit du pass sanitaire comme l'achat des vaccins. Donc oui. Effectivement, ils ont donc contractualisé rapidement. Madame von der Leyen, il faut savoir que c'est elle qui a fait ce choix. Il faut rappeler aussi que c'est sous conseil de Emmanuel Macron à l'époque, puisqu'en fait c'est une nouvelle compétence que la Commission s'est attribuée. Donc oui. L'achat de vaccins auprès des laboratoires. Donc nous avions en tant que députés l'accès à ces contrats, mais quand on a regardé, et en plus c'était très limité dans le temps, très limité dans l'accès puisqu'on ne pouvait pas prendre de notes, oui. Et on s'est rendu compte que sur 90 pages, la moitié était grisée.
La moitié des 90 pages était grisée.
Grisée, noircie. Noircie, ouais. Donc en fait, le contenu était caché. Ouais. Le contenu concernant surtout des clauses importantes qui concernent les prix,
d'accord.
Qui concernent les clauses de responsabilité, parce que maintenant on le voit après presque 2 ans de recul, il y a quand même un problème d'effet secondaire et de responsabilité. Qui va payer les victimes? Est-ce que c'est la Commission? Est-ce que c'est les États membres? Est-ce que c'est surtout le laboratoire? Donc, suite à mes différentes interventions, j'ai, grâce à certains auditeurs qui m'ont suivi, ils m'ont envoyé des contrats qui ont été hackés. Et donc, j'ai pu voir l'intégralité maintenant des contrats. Mais ce n'est pas officiel, en fait. D'accord. Et donc, effectivement, j'entends que les Verts ont demandé, parce que effectivement, ça pose un problème éthique. On est quand même, c'est de l'argent public. On veut savoir combien, comment. Et effectivement, l'autre problématique, c'est les SMS. Parce qu'il faut savoir que Mme von der Leyen a été exfiltrée de l'Allemagne quand elle était ministre de la Défense pour ce même problème. Quand elle était ministre de la Défense, elle a contractualisé pour 100 millions d'euros de contrat avec le fameux cabinet McKinsey. Mmh. Ça a fait beaucoup de scandales en Allemagne. Et donc, ils l'ont exfiltré. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont, pour la remercier, ils l'ont mis à la commission. Et donc, elle a continué avec... Pareil, la négociation des contrats où apparemment il y aurait eu des SMS entre elle et le PDG Bourla. Et aujourd'hui, on a demandé, c'est un sujet qui est sur le bureau de la médiatrice, pour que la commission nous transmette l'intégralité alors, des SMS. Aujourd'hui, on n'y a pas accès.
Je comprends. Virginie Geron, mais revenons à ça, puisque vous avez eu accès, et c'est très important, parce que longtemps, ça n'a pas été possible pour les députés européens, évidemment encore moins pour nous, au contrat entre la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques non grisés. Vous confirmez donc que... est-ce que la clause de non-responsabilité des laboratoires vis-à-vis de tout effet secondaire est bien là ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a
oui,
bien signé ?
Oui. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Il y a 2 contrats, en fait. C'est un montage juridique très fin. D'ailleurs, je me demande aujourd'hui, à la lumière de tous les éléments qu'on a à notre possession, si ça n'a pas été conseillé par un cabinet privé. Parce que, honnêtement, c'est un montage juridique.
Oh, pas McKinsey quand même, pas McKinsey quand même. Non, allons.
Non, revenons à ça. On va trop loin. Non, mais non, ouais. Honnêtement, on se pose quand même la question parce que c'est un montage juridique. Voilà.
Donc, irresponsabilité des labos ou pas ?
Oui. Tout à fait. Dans le contrat de la Commission, irresponsabilité des laboratoires. Et il y a un autre contrat, et c'est celui-ci que la Pologne dénonce.
Oui.
C'est un autre mécanisme entre la Pologne qui doit contractualiser avec la Commission. En fait, la Pologne ne contractualise pas du tout avec Pfizer ou un autre laboratoire. C'est ça le montage intéressant qu'ils ont mis en place. D'accord. Donc, en fait, tous les États membres contractualisent à la Commission.
Et la pas avec les labos. C'est-à-dire chaque État membre, dont la France, on n'a aucun rapport contractuel avec les labos, c'est ça?
Exactement. Et ce qu'a négocié les laboratoires, c'est cette clause d'irresponsabilité en cas de problème lié à des effets secondaires. Donc ça, c'est un vrai problème parce que, on va le voir, la responsabilité des laboratoires qui n'existent pas va être engagée, enfin, elle va se retourner contre les États membres. Donc, c'est les États membres qui vont supporter les futurs procès
et autres,
et autres qui malheureusement vont commencer à poindre dans les jours qui, dans les mois qui arrivent. On a déjà vu qu'il y a quelques cas qui sont en cours. Donc, c'est un vrai problème, de manque de transparence. Aujourd'hui, se pose la question et pourquoi maintenant Madame van der Leyen s'acharne, parce que vous l'avez vu aussi, je pense, le mois dernier, elle a commencé à se plaindre qu'il y ait à peu près plus de 150 millions de non-vaccinés et qu'il y ait temps que les États membres puissent discuter de l'obligation vaccinale. Donc, il y a quand même beaucoup de questions autour, on l'a vu sur l'achat des vaccins, la logique du pass sanitaire qui est
étendu
jusqu'en juin 2023. Un alignement des planètes parfait.
Oui, je comprends. Et cet alignement de planète concerne aussi bien... alors, juste un mot. Est-ce que vous pensez que cette transparence, maintenant que vous avez les contrats, qu'un certain nombre de gens ont les contrats, est-ce que vous pensez qu'elle peut être obligée, Ursula von der Leyen, d'échanger le contenu, de livrer le contenu de ses SMS avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer, où ils vont continuer à dire « Ah ben, il n'existe plus, et puis c'est d'ordre privé, et puis voilà, circuler, il n'y a rien à voir, ça ne vous concerne pas ».
Alors, on a déjà eu ce débat en plénière le mois dernier. J'étais déjà intervenue puisque, en fait, effectivement, ça fait beaucoup de bruit au sein du Parlement, que ça soit par mon groupe ID, mais d'autres députés européens d'autres bords politiques.
Oui.
Donc, il y a eu un débat à ce sujet. Déjà, elle n'est pas venue se présenter à ce débat. Elle a envoyé un autre commissaire. Et bon, la réponse qu'ils nous ont donnée, puisque c'est la commission effectivement qui répond au nom de Madame von der Leyen, c'était de dire que c'est un élément qui ne fait pas partie des négociations, donc on n'a pas vous retransmettre les SMS.
D'accord.
Donc circuler, il n'y a rien à voir.
C'est ça. Oui, comme d'habitude. Donc pour le moment, et alors est-ce que vous pensez que la Cour de justice européenne a été saisie par les députés verts, mais je sais que vous n'êtes pas contre, enfin vous êtes un certain nombre de
personnes. Ah non, pas du tout. Je pense qu'il faut au contraire, toutes les énergies sont bonnes pour l'intérêt commun, parce que ça touche tous les contribuables, ça touche tous les Européens, et donc là-dessus, toutes les bonnes actions sont utiles.
Alors Virginie Geron, est-ce que cette Cour européenne de justice peut fonctionner ou ça va prendre beaucoup de temps? Si elle est saisie, elle peut se retourner vis-à-vis de la Commission européenne et entamer une action, ou ça vous paraît très problématique? Vous connaissez le fonctionnement.
Oui, c'est toujours très long. Voilà, ce sont des institutions européennes. Il y a longtemps que le sujet aurait dû être ouvert. Maintenant, sur la forme, c'est bien, mais sur le fond, on a les contrats. Donc on peut... on peut les attaquer. Déjà, je sais que beaucoup d'avocats ont une copie de ces contrats, donc on a le contenu, c'est le plus important.
C'est sûr.
Maintenant, c'est le plus important parce qu'effectivement, maintenant, on se rend compte que ces clauses 1 sont illicites. Et d'ailleurs, à l'époque, quand j'avais ouvert le dossier, il y avait déjà eu des cabinets d'avocats qui avaient planché sur ces clauses et avaient déjà émis des notes à la Commission. Donc, elle le sait, la Commission, qu'il y avait un problème au niveau de ces clauses qui sont considérées en droit comme illicites.
Elles sont considérées comme illicites au regard du droit.
Du droit, oui. J'ai deux notes de cabinet différentes parce qu'en fait, c'est un contrat qui relève du droit belge. Donc, on a un cabinet d'avocats qui m'avait transmis leur étude. Et effectivement, au regard de cette note, on voit bien que ces clauses sont illicites.
Très intéressant. Ouais.
Et un autre cabinet français qui avait fait la même étude est pareil. Donc, en fait, ce recours, oui, c'est bien, il faut communiquer sur la problématique du manque de transparence de ces contrats, mais sur le fond, on a un vrai problème d'irresponsabilité des laboratoires.
Oui.
Les cas commencent à affluer. Et on verra que le problème, c'est que ce sont encore les contribuables qui vont payer la note.
Oui, n'oublions jamais que c'est l'argent public. Virginie Geron.
Exactement.
Madame Lubitib, restez avec nous. Après une petite pause, nous allons aborder l'autre problème, le fameux pass sanitaire européen, le système effectivement d'un QR code au niveau européen. Qu'en est-il ? On en parle tout de suite avec la députée européenne Virginie Geron. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Oui, les nuages et l'opacité entre contrats, effectivement, les contrats pour plusieurs milliards, sinon dizaines de milliards de doses de vaccins, et l'Union européenne et la Commission européenne, eh bien, les nuages sont en train de se lever, le brouillard aussi. On en parle avec Virginie Geron, députée européenne du groupe Identité et Démocratie. Alors, Virginie Geron, je voulais aussi parler d'autre chose, d'un autre sujet tout aussi préoccupant. Vous avez très récemment interrogé Thierry Breton, qui est le commissaire européen au marché intérieur. Et voici ce que vous disiez. Le pass sanitaire européen est prolongé jusqu'en 2023. À la faveur de la pandémie, vous nous faites entrer dans un système de traçage, de contrôle, de limites, voire d'exclusion, pourtant contraire au principe de la liberté de circulation. Cette liberté constitue la pierre angulaire de la citoyenneté de l'Union. Tout est prêt, le QR code associé à la photo et au vaccin. Il n'y a plus qu'à choisir le support, une appli ou une puce implantée. On en est vraiment là, Virginie Geron ?
On y est presque. Malheureusement, comme je l'ai dit en début d'émission, on a un alignement parfait des planètes. L'achat de vaccins, on a eu un pass sanitaire mis en place en France qui a duré 2 ans avec des règles les plus absurdes possibles. Et puis en même temps, on a cette mise en place d'un portefeuille numérique d'identité européen où on va nous faire croire qu'on n'a que des avantages à rentrer dans ce système. Et comme je l'indiquais à Thierry Breton, qui est aussi commissaire du numérique, je lui posais cette question parce que c'est lui, effectivement, avec la Commission, qui impose ce nouveau système. En fait, la vraie question, c'est est-ce que le certificat Covid, qui a donc été contraint et forcé en France, et c'est d'ailleurs la réponse qu'il m'a faite Thierry Breton, n'est pas en fait un système qui nous permet de planifier une méthodologie et non pour freiner la pandémie. Et en fait, ça a été sa réponse, une identité de numérique européenne, où dedans, on va pouvoir mettre notre permis, notre dossier médical, notre QR code sur notre statut vaccinal. Donc ça, c'est plutôt les avantages pour la liberté de circuler.
J'allais vous dire, point de vue, c'est avantageux, c'est pas mal d'avoir une... Pourquoi pas ?
C'est avantageux déjà si ça reste une option, et ça reste avantageux si on ne vous contraint pas à vous faire rentrer dans un système comme le pass sanitaire. Aujourd'hui encore, on voit, il est juste suspendu, mais demain, pour aller à l'hôpital, vous devez être vacciné ou avoir un test PCR. Ouais. Donc en fait, c'est quand même un système qui vous exclut si vous ne rentrez pas dans un schéma qui est défini là au niveau français, mais demain au niveau européen. Donc toute la problématique, et c'était la question Thierry Breton, c'est que on rentre là, on nous a fait croire que c'était provisoire, que c'était, d'ailleurs c'est suspendu en France, le danger, c'est est-ce qu'on ne suit pas un modèle à la chinoise, c'est-à-dire de contrôle social, d'exclusion, etc., etc. Et en fait, il m'a répondu tout simplement, écoutez, Madame Geron, puisqu'on a 80% de gens qui ont été vaccinés, qui ont donc accepté le pass sanitaire, il n'y aura aucune difficulté pour que ces gens-là acceptent demain l'identité numérique avec un portefeuille où dedans on pourra rentrer tout et n'importe quoi sous prétexte de faciliter la vie des gens. Et moi, la peur que j'ai, et on le voit, je vais vous donner un autre exemple, c'est qu'aujourd'hui, à Bologne, en Italie, ils ont mis en place le Smart Citizen Wallet. Donc, en fait, on pousse les gens...
Le Smart Citizen Wallet, oui, c'est quoi ? Alors, concrètement, c'est quoi ?
En fait, c'est que sur cette ville-là, ils vont faire ça sans fast test. Donc, en été 2022, les citoyens vertueux, donc, ils vont être notés. Ils vont avoir des points. C'est-à-dire que celui qui...
Voilà, bon
celui
point, qui mauvais va point à la chinoise, quoi. Pratiquement, c'est crédit ça. Social.
Donc, donc, la crainte qu'on avait avec le pass sanitaire qui était normalement provisoire, qui aujourd'hui, au niveau de la Commission, va être étendu en juin 2023 et qui, en même temps, alignement des planètes, On nous sort le passeport numérique et on sait très bien que dedans, on ne peut pas rentrer ce certificat Covid. On a en même temps, là c'est en Bologne, un test sur la ville de Bologne, une ville de gauche, hein, d'un maire de mouvement 5 étoiles. Et ils vont tester les gens en fonction, ils sont récompensés. Ceux qui trient bien leurs déchets, ceux qui utilisent les transports publics, ceux qui gèrent bien leur énergie, ceux qui ne reçoivent pas d'amende de la municipalité. Donc, en fait, on fait ça au niveau de cette ville et demain, peut-être dans d'autres. Et après, il a peur aussi, et ça, si j'ai le temps, je pourrais vous en parler, mais c'est qu'en fait, ils se servent de ce passeport, donc il va être, ils disent optionnel, mais à mon avis, quand les gens vont devoir, c'est comme tout, on pensait que le pass sanitaire était optionnel, mais pour aller au restaurant, pour aller aussi travailler, on a eu besoin de rentrer dans ce système.
Même pour aller à l'hôpital, vous le savez, pour aller voir ses parents, etc., etc. Enfin bon.
Voilà, aujourd'hui, ça perdure ce système. Et demain, nouvel engrenage, ça sera avec la taxe carbone. Donc là, il faut un essai sur le tri des déchets. Vous avez vu, c'est sur l'énergie. Donc ceux qui ne vont pas rentrer dans ce système, ils seront taxés, ils seront exclus, il y aura des points. Un système donc dit à la chinoise.
Et ça, Virginie Joron, excusez-moi. Ça va être appliqué. Ça va être appliqué à Bologne cet été. Ce smart wallet là. Oui.
Smart Citizen Wallet. Ouais. Voilà. Donc c'est une décision du maire. Et donc ils font le test sur cette ville de Bologne à partir de cet été. Donc voir un petit peu si les gens vont accepter de rentrer dans ce système. Donc à suivre. Parce qu'effectivement, si les gens vont l'accepter parce qu'en fait, si c'est des points, donc si c'est des récompenses financières avec la crise économique, évidemment, certains vont essayer de rentrer dans ce système. Mais la difficulté et toute la problématique, c'est pour ça que je suis vraiment sur ce sujet, parce que je ne suis pas contre le passeport, je ne suis pas contre la signature électronique qui a aussi certaines vertus, ça facilite les choses, je ne suis pas contre la 5G. Donc, il y a des bons côtés. Ce qui me pose problème, c'est ce contrôle et cette exclusion. On l'a vu avec le pass sanitaire. Thierry Breton me disait, on n'est pas quand même la Chine. J'ai envie de dire, je ne sais pas. Ouais. Évidemment, sur certains points, on n'est pas la Chine.
Mais c'est-à-dire qu'il y a une pente là-dedans, il y a une ouverture.
Il y a une pente, exactement. Et quand on voit, et c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, quand Madame van der Leyen alerte les 27 États membres en leur disant il faut absolument qu'on ait une discussion ferme sur l'obligation vaccinale, et on sait très bien que c'est un système qui va encore nous contrôler, nous exclure.
Virginie Joron, est-ce qu'il y a aujourd'hui, à l'heure où on parle, à votre avis, combien de pays européens sont prêts à la vaccination obligatoire? La France, est-ce qu'on sait ou on ne sait pas?
On l'a bien vu, Macron l'a dit, il l'a dit durant les débats. L'Allemagne a essayé de faire passer la loi, ils l'ont refusé. En Autriche, c'est pareil. Donc, il y a eu un contexte, effectivement, peut-être trop tôt, qui fait que les gens ne sont pas prêts à passer à cette obligation. Il suffit d'attendre cet hiver, voir un petit peu s'il ne va pas y avoir un nouveau variant. Ouais. On l'a bien vu, la gestion de la peur a été telle qu'on a poussé les gens à. Donc je pense qu'il y a une stratégie qui va être mise en place au regard de cette volonté de
Van der Leyen. Il y a une possibilité.
Effectivement, il y a une grande possibilité. De toute façon, tout démontre que la Commission continue à acheter des doses. Oui. La Pologne, vous avez vu cette semaine, a souhaité suspendre les commandes, là, parce qu'elle a un stock trop important à écouler. Et là, apparemment, la commission n'était pas contente. Donc tout ça, c'est des dossiers qui vont être que je vais suivre. Et puis après, pour finir, parce que je vous ai dit, il y a tellement de sujets qui sont importants, parce que ça va toucher le quotidien des Français. C'est qu'après, là, je n'ai pas eu le temps encore de regarder ce qu'il y a dedans, il y a cette note-là. Donc après, le pass sanitaire, après la taxe carbone, il y a aussi ça qui va arriver, le digital euro. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont en train de réfléchir à la mise en place de la digitalisation de l'euro, donc de la monnaie. C'est pour ça que vous voyez de moins en moins…
C'est pas la crypto-monnaie, mais c'est la monnaie digitale, c'est ça.
Exactement, l'euro digital qui rentrera dans ce portefeuille.
D'accord. Eh bien, écoutez, on va suivre tout ça avec vous, avec d'autres. Merci de ces éclaircissements. En tout cas, pour l'euro digital, il ferait bien d'aller vite parce que l'euro est en train de baisser face au dollar de manière absolument exponentielle. Donc, avant que, avant de se retrouver à zéro, on verra ce qui va se passer. Merci, Virginie Joron.
Et je rappelle que
merci
vous êtes
à vous.
Député européen Rassemblement National du groupe Identité Démocratie. Eh bien, justement, l'euro digital arrangerait bien une certaine compagnie, BlackRock. On en parle tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états, lanceur d'alerte.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on.
Oui. La chanson L'air qui a révolutionné dans les années 50 toute la musique avec l'introduction de rock'n'roll. Oui, avant Elvis. Bill Haley, mais nous, on parle pas de ça. Nous, on dit Black Rock Around the Clock Again. Black Rock Around the World Again. C'est Black Rock et c'est un grand musicologue de Black Rock c'est qui va nous en parler aujourd'hui. Guy de Lafortelle, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bonjour. Guy de Lafortelle, bonjour. Vous êtes économiste et vous avez écrit quelques textes assez fort sur BlackRock. Mais alors, dites-nous d'abord, justement, et ça suit un peu la discussion que nous avions un peu plus avant avec Virginie Joron. D'abord, dites-nous rapidement, parce que peut-être beaucoup de gens ont entendu parler de BlackRock, mais ne savent pas exactement ce que c'est, le poids qu'est BlackRock, qui est un fonds d'investissement. Dites-nous exactement ce qu'est BlackRock.
BlackRock est le plus gros gestionnaire d'actifs de la planète. Qui gère directement plus de 10 000 milliards de dollars.
Et 10 000 indirect... milliards de dollars, donc 10 trillions de dollars. Quoi.
C'est ça. Ça. Ouais. Ça, c'est directement,
ouais.
Plus 20 000 milliards indirectement via leur logiciel de gestion.
D'accord.
Donc, c'est absolument massif et ça fait d'eux, si vous voulez, l'actionnaire de référence de presque tout, de tout les groupes américains du S&P 500, des 500 plus grosses sociétés américaines, et de la plupart des grands groupes occidentaux.
D'accord.
Pour le dire autrement, oui. BlackRock, c'est le patron du patron. C'est-à-dire que quand on vous parle d'un néolibéralisme à la concurrence effrénée, on se rend compte que depuis une dizaine d'années, c'est en train de se passer exactement l'inverse. Il y a un monopole qui est en train de se reconstituer au-dessus des sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous dites, ah ben tiens, des sociétés pharmaceutiques sont dans une concurrence effrénée. En fait, toutes ces sociétés ont le même propriétaire par-dessus. Et du coup, vous avez tout un monopole.
Parce que BlackRock est vraiment propriétaire ou il est simplement actionnaire dans telle ou telle ou telle société?
Alors, ils sont actionnaires de référence, c'est-à-dire que généralement, ils vont détenir 8% dans des groupes du S&P 500,
oui.
Pfizer et autres, en sachant que vous avez tout un écosystème autour de BlackRock. Vous avez d'autres gestionnaires qui vont avoir les mêmes intérêts, qui vont être construits sur la même chose. Vous avez, ça chasse en meute, ces gens-là. Donc, ensemble, ils vont avoir plutôt 20-25%, voire plus dans certains cas.
D'accord.
Et ça, dans la manière dont fonctionnent les marchés financiers anglo-saxons, ça vous donne une position de contrôle. C'est-à-dire que la SEC, le gendarme boursier américain, estime que quand vous détenez 25% d'une société, c'est comme si vous la contrôliez. Parce que c'est le jeu de ces grandes entreprises qui ont des...
Donc vous dites, en fait, on arrive presque, enfin c'est intéressant, je ne dirais pas une soviétisation de l'économie, là je fais exprès, mais c'est quelque part, c'est un monopole, pratiquement.
C'est exactement ça. Et si vous voulez, on a un exemple en France qui a eu lieu, c'est que Emmanuel Faber, le PDG de Danone, a été évincé, il me semble, l'année dernière. Et j'ai enquêté là-dessus assez longuement. Derrière, vous avez BlackRock et l'instrumentalisation d'un petit fonds activiste qui a été mordre les chevilles. Alors, ça a été possible sur Danone parce que vous avez justement un actionnariat très éclaté qu'ils ont pu. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez 8-10% et le poids global de BlackRock par-dessus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez,
ouais,
en fait.
Ouais. Mais BlackRock, bon, entreprise privée, vous dites que même de ce moment-là, est-ce que par rapport... Donc même les politiques sont obligées, évidemment, enfin sont obligées en tout cas, non pas de se soumettre, mais d'être en position de rapport de force et dans le rapport de force avec les politiques. Vous dites presque BlackRock, qui ne se montrera pas comme ça, est presque dominant, on peut dire.
Oui, j'aurais pas dit presque, j'aurais dit dominant, simplement.
Ouais.
Pour prendre un exemple très simple, donc BlackRock, depuis 2017, rachète, surpondère la dette française, c'est-à-dire qu'ils rachètent notre dette massivement. On a émis pas mal de dettes depuis 5 ans, je pense, certes, que tout le monde le sait.
Ouais.
Donc ça, c'est vachement bien, c'est-à-dire que c'est très pour nous, si vous voulez, ça permet à M. le maire de dire, regardez, les marchés achètent notre dette, ça veut dire que la signature de la France est forte et puissante, et nous sommes un pays bien géré. Mais si demain, ils revendent toutes ces dettes qu'ils ont rachetées, ils peuvent nous faire plonger extrêmement rapidement. BlackRock est aussi très influent à Bruxelles, et je vous rappelle que c'est eux qui définissent avec Bruxelles les politiques d'investissement vert. Il y a un moment, c'était eux qui faisaient les stress tests des banques avec la BCE. Ces gens,
avec la Banque Centrale Européenne, oui.
C'est absolument massif, ils sont partout. Et encore une fois, quand vous avez cette puissance de frappe qui est absolument inégalée dans l'histoire de l'humanité, quand vous pouvez comme ça mobiliser autant de capital très vite, vous avez une puissance qui est effectivement supérieure à celle d'un État comme la France, qui est censée être riche, qui a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, oui, bien sûr.
Mais alors, à ce moment-là, est-ce que ça veut dire, mais on peut dire aussi, enfin, pour me faire non pas l'avocat de BlackRock, mais pour expliciter, oui, mais eux n'ont pas intérêt à semer le chaos, ils vont toujours essayer de défendre les États, ils vont essayer de évidemment, tout en veillant à leurs intérêts et au retour sur investissement. Mais est-ce que la tentation, je dirais, de peser politiquement n'est-elle pas contrebalancée chez eux par la tentation de dire, écoutez, équilibrons, équilibrons, ils n'ont aucun intérêt au chaos ?
Malheureusement, si, elle est nécessaire. C'est-à-dire que c'est pas, ces gens ne sont pas des gens par nature malveillants, c'est pas des héros, pas des anti-héros de bande dessinée.
C'est ça, c'est pas du...
Ce qu'il faut comprendre, ils y vont par nécessité. Ces gens-là, c'est toujours pareil. S'ils pouvaient être gentils, ils le seraient. Ils le sont parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils préfèrent que vous creviez plutôt qu'eux. BlackRock, aujourd'hui, a un tel poids qu'ils sont devenus systémiques, c'est-à-dire qu'ils sont totalement dépendants du système. Si le système est faible, ils sont faibles. Si le système est fort, ils sont forts. Mm-hmm. Dans quel système est-ce qu'on vit ? On vit dans un système néolibéral fondé sur la dette. Cette dette, aujourd'hui, rend nos économies ingérables. Tout le monde le sait, on a eu cette discussion après 2008. Il faudrait aujourd'hui gérer cette histoire de dette. On sait très bien qu'on ne pourra jamais la rembourser. Ça, il y a un calcul de coin de table absolument évident. Bruno Le Maire peut vous dire l'inverse, ce n'est pas possible.
Ouais.
Et surtout, le gros problème, c'est que quand vous émettez de la dette, vous émettez de la monnaie.
Ben oui.
Et quand vous émettez de la monnaie, davantage que vous ne créez de richesse, la monnaie, ce n'est jamais qu'une représentation de richesse. Si vous émettez plus de monnaie que vous ne créez de richesse, vous faites un transfert, c'est-à-dire que celui qui reçoit la monnaie va recevoir de la richesse réelle par rapport à celui qui n'en reçoit pas. Ça s'appelle un effet cantillon, on connaît ça très très bien, et ça veut dire que plus vous émettez, plus vous créez de l'inégalité. Et vous arrivez à un stade aujourd'hui qui devient insupportable. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est créer ces inégalités ? C'est que quand vous faites la valeur ajoutée d'une économie en France, la valeur ajoutée de l'économie française, elle se répartit grossièrement entre deux postes, le capital et le travail.
Ouais.
En 1980, vous avez 75% de la valeur ajoutée qui va au salaire et 25% qui va au capital. Aujourd'hui, vous êtes à 40-60.
40, c'est-à-dire
40 pour le capital, 60 pour les salaires.
Ah ouais, d'accord.
Ça fait 200 milliards de salaires qui ne sont pas versés et qui sont redonnés au capital, qui sont donnés à BlackRock. En partie, en France, ils ne sont pas encore très présents. C'est déséquilibré, et du coup, si vous voulez, on voit que ça pose un énorme problème, parce que déjà, chaque année, ça s'accumule, c'est-à-dire que c'est chaque année, un peu plus, ça fait qu'on creuse la dette, et pourquoi est-ce que l'État, aujourd'hui, est obligé de dépenser la majeure partie en aide sociale et en redistribution ? C'est parce qu'il manque ces 200 milliards. Donc, vous voyez cette inégalité qui est construite dès la base, monétairement. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça crée des tensions. C'est-à-dire qu'il y a un moment, les gens en ont marre de travailler pour rien, les gens en ont marre de se faire avoir, et ils se font avoir. Et du coup, les gens ne sont plus d'accord, ils descendent dans la rue.
La frustration, effectivement, et le rejet. Et on voit très très bien avec ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, et les embargos, et ce que ça crée. On voit très bien l'inflation, les matières premières, parce qu'il n'y a pas que la monnaie, comme vous dites, il y a le blé, il y a le gaz, il y a le pétrole, il y a le réel, quoi.
Mais bien évidemment, nous, on n'a aucun intérêt à la guerre en Ukraine. Tous les Français sont en train de souffrir pour un truc dans lequel ils n'avaient pas d'intérêt particulier. Et donc, ils pourraient être pas d'accord sur ces choses-là. Ils pourraient, et c'est ce qu'on voit, si vous voulez. À chaque fois, c'est quelque chose que le BCG, le Boston Consulting Group, un collègue de McKinsey, avait sorti en 2011 ouais. ou 12, qui était à chaque fois que vous baissez les dépenses publiques de plus de 0,5%, vous mettez tout le monde dans la rue.
Ouais.
Et donc, vous ne pouvez pas baisser les dépenses publiques, vous ne pouvez pas, vous êtes face à un dilemme. Et pourtant, ces dépenses publiques, aujourd'hui, encore une fois, sont nécessaires
bien sûr.
Parce que dans les productions économiques, on ne redistribue pas assez de valeur ajoutée aux populations.
On va reparler de tout ça avec vous, Guy ouais. de Lafortelle, dans les prochaines, parce qu'on va passer plus d'une heure avec cela. Merci pour ces éclaircissements, mais il fallait voir ce qui se passait avec, effectivement, BlackRock et le politique.
Et avant de parler de la tyrannie, quelques perles d'André Bercoff. Et à 13h, nous recevons Philippe Bornet. Vous nous appelez au 0826-300-300.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente...
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états.
Eh bien, dans tous mes états, oui, parce que je vois les Républicains en train de se dissoudre dans la suite des élections. Non, ce grand parti ne doit pas disparaître, ne doit pas mourir. Non. Il faut se battre, il faut résister, les LR. Ne vous laissez pas faire. Mais apparemment, il y a du mou dans la corde à nœuds. Comment ? Écoutez.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Les perles du jour.
Je retourne ma veste. Toujours du bon côté.
Est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui retournent leur veste chez les LR ? Non. Comme partout, évidemment, il y en a qui le sens du vent, et puis il faut vivre, hein, il faut bien vivre, comme disait l'autre, et puis l'odeur enivrante de la soupe qui attend dans les urnes. Les législatives arrivent et c'est partout comme ça. Alors, il y a eu le comité LR, vous savez, hier, le comité de presse du Conseil stratégique des Républicains a été absolument ferme et tout. Ferme. Nous refusons la logique du parti unique à la disposition du président de la République. Les Républicains ne sont ni fongibles dans le macronisme, ni dans le lepénisme. J'adore l'expression fongible. Auditeurs de Sud Radio, ne soyez jamais fongibles, sinon dans vos propres convictions. Et les candidats investis par notre famille, dit toujours ce communiqué du Conseil stratégique, s'engageront à siéger dans un groupe LR indépendant. Alors ça a été effectivement voté par l'ensemble des participants, excepté par Damien Abad et Philippe Juvin, qui se sont abstenus. Ils n'ont pas voté contre, hein. Ils se sont abstenus. Je rappelle quand même que Damien Abad est président du groupe LR à l'Assemblée nationale, ce cher Damien Abad. Et pourtant, le 9 février dernier, il dénonçait la démarche solitaire des Rivers. Il a fait un tweet, Damien Abad. La démarche solitaire des Rivers l'a conduit à démissionner du groupe LR. Je lui demande en cohérence de quitter la présidence de la commission des finances. C'est une question de dignité et de respect vis-à-vis de nos institutions et de ses ex-collègues LR. Et Rivers a dit fume, c'est du belge, mais il l'a dit de manière évidemment beaucoup plus châtiée que moi. Mais alors que va faire Damien Abad ? Est-ce que Damien Abad s'est abstenu ? S'il s'est abstenu, quand même, c'est un signe, effectivement, de refus d'accepter, quand même, la stratégie du groupe LR. Va-t-il démissionner de la présidence du groupe ? Va-t-il quitter son étiquette LR pour rejoindre La République En Marche ou autre, le grand parti macroniste en formation ? On ne sait pas, c'est un suspense insoutenable. Je sais, auditeurs de Sud Radio, que ça vous empêche de dormir. Moi aussi, je vous le jure, nous vous tiendrons au courant de ce que feront Damien Abad et Philippe Juvin.
Sud Radio Bercoff dans tous ses états.
Elle a un truc, y a pas d'erreur. Pour moi, c'est sûr, elle est Pfizer. Je la vois chaque jour.
Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je viens d'apprendre une nouvelle qui nous remplit d'effroi et je dirais même de tristesse et d'une touche de mélancolie. Le directeur de financier de Moderna, David Méline, et Franck D'Amelio de Pfizer démissionnent de leurs fonctions. Démissionnent de leurs fonctions. Les quand même, les CFO, et oui, Chief Financial Officer des entreprises, démissionnent. Mais comment ? Enfin, ça marche tellement bien. Moderna et Pfizer, je ne comprends pas pourquoi ils démissionnent. Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, alors, c'est quoi ? C'est les effets ? C'est quelques pertes financières ? Il paraît chez Moderna. La banne du vaccin peut être effectivement contestée, inverser les cours de la bourse. Non, mais on n'en est pas là, on n'en est pas là. Il ne faut pas démissionner comme ça. Surtout que vous avez un allié avec la Food and Drug Administration, vous savez, la fameuse FDA, qui est l'équivalent des hautes autorités de santé chez nous. Eh bien, il vient, écoutez-moi bien, il vient d'accepter, d'approuver le traitement de Covid-19. Vous savez, le fameux Remdesivir. Ah oui, oui, ils l'ont adopté, le Remdesivir, absolument. Et ils l'ont adopté en disant que, écoutez, c'était très bien pour les enfants. Pour les enfants. Il dit, il n'y a pas de problème, la FDA, on peut y aller. Attendez, le Remdesivir, mais je ne comprends pas. Tous disaient qu'il y avait des problèmes vis-à-vis de maux rénaux, de maux de reins, etc. Qu'il y avait des problèmes. Et ils ajoutent quand même qu'on peut vacciner ou en tout cas traiter avec le Remdesivir à partir des bébés de 28 jours. De 28 jours et de plus de 3 kilos. C'est à partir de 28 jours, on peut utiliser Veklury. Veklury, c'est le Remdesivir. Hein. Voilà, c'est intéressant. Ce sont des nouvelles d'un certain nombre de labos et surtout d'institutions comme la Food and Drug Administration qui avait, je vous le rappelle, refusé de donner les 400 000 pages d'études de Pfizer, d'essais de Pfizer pendant la période d'essai, qui en principe devait durer jusqu'en 2023. Voilà, écoutez, on vous donne ces nouvelles. En tout cas, ces deux directeurs qui ont démissionné, on ne comprend pas pourquoi ils démissionnent. Ou alors, on ne sait pas tout, mais on vous le dira.
Et sommes-nous en tyrannie ? Non, non, vous connaissez bien les actualités de Sud Radio. On reçoit Philippe Bornet dans un instant et vous nous appelez au 0826-300-300.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente...
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et il est clinicien et essayiste chirurgical et il publie aujourd'hui La tyrannie aux presses de la délivrance. Bonjour Philippe Bornet.
Ah bonjour, bonjour
et
André.
Et Philippe Bornet, bonjour Philippe. Non, il n'est pas seulement qu'essayiste chirurgical, il est surtout essayiste du totalitarisme, représenté surtout par la tyrannie. D'ailleurs, vous aviez écrit Philippe Bornet, on vous avait reçu.
Oui.
Il
n'y
a pas si longtemps.
Non.
Pour demain, la dictature.
Exactement. Et ce livre est en quelque sorte la contrepartie, le miroir du premier opus. Donc le dictateur, ce personnage qui finalement... c'est plutôt un compliment d'être dictateur, si on en croit le philosophe Cicéron, si vous voulez. C'est l'homme qui,
oui, légalement,
va être amené à restaurer l'ordre. Il a une mission qui peut être limitée dans le temps, mais il a une mission.
Oui,
il a
de tous ramener l'autorité, de ramener l'ordre.
Voilà, de la restaurer. Oui. Voilà. Et d'accord. On a eu des grands dictateurs dans notre histoire. On peut approuver, évidemment, ou pas leurs actions politiques, mais Charles de Gaulle était un dictateur. Il l'a écrit lui-même. Hein. Il l'a mis noir sur blanc. Alors que le tyran...
Alors, attendez, Philippe Bornet. Non, mais déjà, on va pas disputer là-dessus, mais c'est intéressant. Il a quand même dit, quand il est revenu en 58, ce n'est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur.
Ah oui, ça, je me souviens, en effet, de cette phrase. Oui, 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 tout à fait. Eh bien, oui, mais c'était... Eh bien, une fois qu'il a été au pouvoir, et qu'il a d'ailleurs écrit ses mémoires, il a écrit noir sur blanc le contraire, en se félicitant et en disant même, à un moment, s'il le fallait, je recommencerai.
Voilà. D'accord.
Alors, le tyran, lui, c'est différent. Le tyran, si vous
voulez... C'est quoi le tyran, alors, justement ?
Il faudrait que je revienne juste deux minutes, sans vouloir être pédant, sur la souveraineté. Vous savez, la question centrale de la politique, c'est qu'est-ce qui permet d'établir la souveraineté.
C'est
qu'est-ce
vrai.
Qui donne le droit de dire « tu obéis ou je te
et
tue ».
Et vous remontez au matriarcat et au patriarcat, c'est intéressant.
Je remonte très, très... On en reparlera tout à l'heure, c'est un sujet qui me tient à cœur.
Oui.
Alors, là, si vous voulez, il y a deux composantes dans la souveraineté. Il y a la puissance, la potestas, et l'autorité, en latin, auctoritas. Voilà. Alors, La potestas, eh ben c'est très simple, c'est la puissance, c'est le muscle, c'est la capacité de disposer d'une armée, d'une police, etc. Mais l'auctoritas, en fait, elle vient des dieux, si vous voulez. C'est une capacité à se faire obéir sans la contrainte. Et le tyran, lui, il a la puissance, mais comme il n'est pas légitime, il n'a pas l'auctoritas, il doit gouverner sans arrêt par la contrainte. Et pour le citoyen ou pour le sujet, eh bien, ça devient insupportable. C'est-à-dire que tout ce qui est commandé, le souverain l'obtient par le contrôle de la pensée, l'armée, la police, les services secrets. Si vous voulez, on ne vit plus, on étouffe.
Le contrôle, oui, c'est comment Chine, par exemple, Corée du Nord et autres. Enfin, il y a beaucoup d'exemples.
Ah, les exemples ne manquent pas.
Et on en parlera,
à la surface
on
de
parlera
la Terre.
Aussi de nous. Mais alors, par exemple, donnez-moi un exemple de quelqu'un qui n'est pas dans le contrôle, dans la puissance, mais dans l'autorité.
Alors, l'autorité.
C'est Churchill, l'autorité, par exemple.
Oui, chaque fois que vous avez. On peut remonter dans l'histoire de France. Oui, vous savez, oui. Louis XIV.
Ouais.
Louis XIV gouvernait un pays de 25 millions d'habitants déjà, avec à peu près 400 fonctionnaires.
En tout.
Oui, ça suffisait. Alors, il y avait une armée de 400 000 hommes aussi. Mais enfin, il avait 400 fonctionnaires, et ces 400 fonctionnaires grattaient le papier avec des plumes d'oie, et les ordres du roi mettaient 4 jours pour arriver de Paris à Perpignan. Eh bien, il n'y a jamais eu de révolte. Personne ne regimbait, si vous voulez, parce que c'était le roi, il était revêtu d'une puissance morale colossale.
Et puis divine, pratiquement. Enfin,
voilà, il y avait une verticalité, mais en même temps, une transcendance, si vous voulez. Il gouvernait au nom de Dieu, il rendait lui-même des comptes à Dieu. Bon. Alors, quand vous êtes dans une situation, les gens obéissent, si vous voulez, quand ils sont pénétrés de cette vérité. Voilà. Et donc, l'autorité, elle permet, si vous voulez, c'est là où on va peut-être rebondir sur l'origine, en fait, de l'auctoritas. Il y a 6000 ans, la famille est apparue. 6000 ans, millénaire. Les temps bibliques et même un petit peu avant. Qu'est-ce qui se passait à l'époque ? En fait, l'homme ignorait, ne faisait pas de relation entre sexualité et procréation.
Ouais, voilà.
Et il ne savait pas, en fait, ça peut vous paraître un peu fort, mais c'est vraiment une chose que l'anthropologie nous apprend. Il ignorait comment on faisait les enfants, en fait. Il ne le savait pas. Et donc, quand la femme...
Il le faisait sans le savoir.
Exactement.
C'est vraiment Jourdain du coït.
Mais oui, parce que, si vous voulez, l'élevage n'était pas encore arrivé, donc on n'avait pas remarqué que quand dans un troupeau on tue tous les mâles, il n'y a plus d'agneau, il n'y a plus rien.
Ouais.
Alors, quand la femme était enceinte, on pensait que c'était par une action extérieure plus ou moins magique. Enfin bref, on pensait que c'était par... Les dieux étaient intervenus là-dedans. Mmh. Et d'ailleurs, un théologien me faisait remarquer que dans le livre de la Genèse, quand Ève tombe enceinte de Caïn, elle dit « J'ai conçu un homme grâce à Yahvé ». Elle dit pas comme la femme d'aujourd'hui « Bravo chérie, t'as mis dans le mille, j'ai le laboratoire qui me l'a dit hein. ». Non, et elle pensait, si vous voulez, qu'elle était capable de concevoir avec l'aide du Dieu. Et donc, aux yeux de l'homme, elle a un prestige colossal, parce qu'elle est en rapport avec le ciel.
Donc on a commencé par un matriarcat,
pratiquement. On a commencé, en fait, par un matriarcat. Je dirais à Sandrine Rousseau, mais vous savez, le matriarcat, c'est un truc dont on sort à peine.
Et ça a duré quand même des millénaires. Enfin,
ça a duré des millénaires. Vous savez, quand on lit, par exemple, un auteur comme Tacite, qui parle des Germains, à l'époque, il note bien que toutes les grandes prêtresses sont des femmes.
Ouais.
Voilà. Voilà. Alors donc, cette autorité de la femme, avec... Parce qu'un jour, la femme a passé un deal, comme on dit, avec l'homme.
L'homme était le puissant.
Était puissant, mais si vous voulez, il était chargé de faire la chasse, et puis c'est tout. La femme, elle règne à l'intérieur. Et vous savez, en grec, à l'époque antique, la femme a une pièce qui lui est réservée dans la maison. La maison, c'est le domaine de la femme. L'homme, si vous voulez, il est invité, mais pas plus. Hein.
Mais...
Et donc, il y a une pièce spéciale qui s'appelle le gynécée, et là-dedans, c'est la femme qui commande. La femme commande à ses enfants par son autorité naturelle, et l'homme, lui, il a puissance, mais si vous voulez, il commande à l'extérieur. Il va faire la chasse, il va faire la guerre, et le jour où les deux se rencontrent, oui, il y a bien eu contrat d'une certaine manière, comme disent Thomas Hobbes et Rousseau, il y a eu contrat, mais c'est un contrat de mariage. Donc la femme commande à l'intérieur, l'homme à l'extérieur, et les deux finalement, qui auctoritas, c'est la femme, potestas, c'est l'homme, les deux vont se réunir pour former une nouvelle entité, mais qui était ce que les philosophes appellent un dualisme, c'est-à-dire que ce n'est pas une notion pure, c'est deux composantes, oui. Ça donne la souveraineté, et c'est là où la famille éventuellement se regroupe avec d'autres, 300 familles sur le mont Palatin, et c'est la cité antique, c'est Rome.
D'accord.
Voilà l'histoire de la souveraineté.
Alors ça, c'est l'histoire de la souveraineté, oui, comment elle se fait, comment elle se forme, non mais c'est important de rappeler cela, parce qu'on l'oublie complètement, ça.
Oui, oui,
c'est
oui.
C'est aujourd'hui surtout. Donc, on avance effectivement, d'ailleurs, je rappelle que vous traitez dans ce livre vraiment, qui est tout à fait passionnant à lire, vous avez commencé par Denis le Tyran, les portes de 431 avant Jésus-Christ, Savonarole, Calvin, Robespierre, Staline et Mao Tse-Tung, évidemment, vous avez choisi quelques figures. Alors, cette tyrannie, au fond, c'est quoi? Alors, vous donnez, on va en citer quelques-uns, mais je voudrais surtout insister sur le système bureaucratique. C'est étonnant, parce que quand on lit ça et vous donnez les invariants, je vais les lire rapidement, parce que Philippe Bornet, mais quand je lis « mise en place d'un système bureaucratique, obsession du contrôle de l'information », je ne lis pas tout, mais « fascination pour la technologie », déplacement de population, soumission à l'influence étrangère, mise en place d'un passeport intérieur, on vient d'en parler pour l'Europe, enfin la possibilité, mise à profit des épidémies et instrumentalisation de la religion. Parmi ce que vous citez, mais ça sonne étrangement actuel tout cela.
Ah ben c'est l'actualité même, mais il n'y a rien de plus actuel que l'histoire. Et ma crainte, voyez-vous, c'est que... Moi je réponds un peu à une inquiétude du Conseil d'État. J'ai retrouvé une citation très précise du Conseil d'État qui date seulement de septembre 2021.
Vous voyez,
une mise en garde.
Oui.
Je cite. « L'activité de police administrative, à ce site particulier, dit le Conseil d'État, qu'elle vise à prévenir les comportements que la société juge dangereux. Si les objectifs qui lui sont assignés sont trop exigeants ou utopistes, elle peut conduire à entraver toute liberté individuelle, et alors là, écoutez bien, c'est toujours le Conseil d'État qui parle, elle porte en elle les germes de la tyrannie, comme l'a parfaitement démontré George Orwell dans son livre 1984.
Oui, on y est. Orwell, toujours. Et... Alors justement, on va en parler, après une petite pause, des caractéristiques de cette tyrannie, hier et aujourd'hui.
Et comme sur Sud Radio, nous ne sommes pas en tyrannie, vous nous appelez au 0826 300 300.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et la tyrannie, oui, quelle tyrannie, la tyrannie d'il y a 3000 ans, l'histoire de la tyrannie, qu'est-ce qui se Philippe Bornet, avec beaucoup, beaucoup de talent et de connaissances, dans aujourd'hui la tyrannie qui paraît aux presses de la délivrance, effectivement, et non pas de la connaissance, la délivrance c'est pas mal quand il faut se délivrer justement du tyran, il faut le faire. Alors, Philippe Bornet, justement... Je voudrais qu'on regarde un peu un certain nombre de ce qui caractérise la tyrannie. Et vous dites que ce qui caractérise notamment, c'est un système bureaucratique et l'obsession du contrôle de l'information. On a l'impression que vous parlez d'aujourd'hui, ça.
Mais en écrivant ce livre, je me suis demandé, mais je suis en train de faire l'histoire contemporaine, de la réécrire. Ah oui, par exemple, parce que à l'origine de tout, le tyran a peur de se faire tuer. Parce que son pouvoir est totalement personnel. Vous connaissez la fameuse histoire de l'épée de Damoclès. Donc, Denis le Tyran explique à Damoclès, tu vois cette épée qui est retenue par un cheveu, elle peut tomber et me trancher la gorge à tout moment, eh bien c'est là la situation où je me trouve. C'est vrai que j'ai tous les pouvoirs, mais mon sort n'est pas enviable, puisque je peux mourir à n'importe quel instant. Alors, pour s'assurer contre l'assassinat, que faire? Il faut partager le pouvoir, mais avec des gens qu'on contrôle. Donc bien dans sûr. Un premier temps, c'est le népotisme familial. Et dans un deuxième temps, comme l'a fait Staline, c'est l'appareil, le pouvoir, la nomenclatura. C'est-à-dire que vous créez une classe sociale à qui vous confiez le pouvoir, mais c'est vous qui avez les clés, les gens qui rentrent et ceux qui sortent, c'est vous qui décidez.
C'est ça.
Et en fait, ils vous obéissent tous, ils viennent vous manger dans la main. Mais comme le gouverné, lui, n'est pas forcément au courant de tout cela. Oui. Il se dit, si jamais je tue le tyran, il va être remplacé immédiatement par un autre.
Ah oui,
donc ça ne sert à rien.
Oui. Voilà. Comme ceux qui disent, on s'abstient, on ne va pas voter, ce sera toujours les mêmes. Mais alors justement, système bureaucratique, alors j'ai envie... Fascination pour la technologie et soumission à l'influence étrangère.
Alors, bah oui, alors, ce sont deux choses un petit peu différentes. La fascination pour la technologie, vous savez déjà, Denis le Tyran est un grand inventeur.
Je rappelle, Denis le Tyran, c'était il y a 2500 ans.
Absolument, oui, oui, ça fait 25 siècles. Oui. Et il avait inventé de nouvelles armes. Par exemple, il avait perfectionné le navire de guerre qui n'avait que 3 rangs de rameurs. Il en avait réussi à en rajouter 2. Donc, ce qui donne une puissance d'épronage, etc. Alors, il avait inventé des tas de choses, si vous voulez, pour faire le siège des villes. Et de la même manière, si vous voulez, vous avez, chez le dictateur, un amour de la technologie quand elle permet de faire la guerre ou de contrôler l'individu. Et si actuellement les gens se passionnent pour les GAFA, pour Facebook, Twitter, etc. Ouais, enfin, il y a eu un rebondissement avec Twitter.
Juste un mot par rapport à ce que vous dites, c'est intéressant, on tira ou pas, c'est une autre question. Mais quand on voit, par exemple, on entend Poutine et Géo Russe qui disent, c'était avant-hier, nous pouvons raser New York demain, nous avons les fusées pour raser New York en 2 minutes. C'est-à-dire, on en parle, quoi, on le dit.
Oui, on le dit, parce que ce qui fait la puissance du tyran aussi, c'est la menace, puisque tu vois, la puissance, elle ne s'exerce pas toujours. Bien sûr, on peut faire la guerre, mais en général, c'est la menace de la puissance qui permet de faire tenir l'autre tranquille. Donc, la menace, la technologie, et puis aussi la manipulation de l'information. C'est pas un hasard si le patron de Facebook est invité en Europe quand il veut, n'est-ce pas ?
C'est clair. Et je pense... Il est reçu comme un chef d'État
et il participe au pouvoir.
Alors justement, on voulait de parler avec, là un peu plus tôt, vous dites, et c'est intéressant dans votre livre qui est paru bien avant, enfin qui est paru, que vous avez écrit bien avant l'actualité d'aujourd'hui, vous dites mise en place d'un passeport intérieur.
Ah, le passeport intérieur.
Oh, on est en plein passeport intérieur
mais
européen.
Oui, il y a trois quarts d'heure, on en parlait. Alors, ce passeport, il existe depuis toujours, déjà lors de la journée révolutionnaire de mai 1793, et si vous voulez, il fallait une sorte de certificat de civisme, on disait à l'époque. Hein. Ouais. Et alors, pour avoir le droit de sortir de chez soi, traverser la rue, lors de cette fameuse journée du 31 mai 1793, où Orléans avait essayé de prendre le pouvoir, en fait, eh bien, les gens étaient tellement importunés et contrôlés qu'ils prenaient leur certificat de civisme et ils le collaient sur leur chapeau.
D'accord. Voyez, pour dire, regardez, gelé.
C'était pas encore la puce électronique qu'on va nous mettre sous la peau, hein. Non, mais enfin, ça y ressemblait déjà.
C'était l'attestation. Hein.
Et alors, en Union soviétique, c'était la même chose sous Staline. Il fallait s'adresser pour se déplacer, prendre un hôtel, le train. Il fallait aller au bureau spécial du GPU, c'est-à-dire le renseignement militaire. Mmh. Et là, il fallait obtenir une autorisation. Il fallait fournir des renseignements. Et sur le passeport, eh bien, on marquait, par exemple, non seulement votre signalement, mais votre biographie sociale, politique, qu'est-ce qu'avaient fait vos ascendants jusqu'au deuxième degré, les membres de votre famille, si vous aviez été renvoyé du travail, si vous aviez participé aux emprunts volontaires. Bon, c'était le crédit social. Si vous voulez, Lénine a dit le communisme, c'est l'autorité des soviets plus l'électricité. Eh bien, si vous voulez, la tyrannie, c'est le passeport intérieur plus l'électronique.
Oui, c'est intéressant, c'est un bon résumé. On se demande si on est très très loin. Et alors, vous ajoutez quand même, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou pas, mise à profit des épidémies.
Ah mais oui, mais ça a toujours été le cas.
Un très bel instrument de contrôle, quoi.
Oui, mais bien sûr. Je voulais, le tyran utilise tout ce qui fait le malheur des peuples. Donc les guerres, etc. Mais également les grandes épidémies. Et Dieu sait s'il y en a eu, la peste, etc. Le choléra, bon. Alors, là, actuellement, on vit une épidémie de Covid, mais le raisonnement est toujours un petit peu le même. Voilà. On va utiliser l'épidémie pour désigner une partie de la population à l'opprobre public en disant qu'ils ont une responsabilité. Et donc, en utilisant cette dénonciation publique, on va éliminer des ennemis politiques.
C'est ça. Voilà. Ça depuis toujours. Ça mais a toujours
écoutez,
été, là.
Ouais. Prenez le cas par exemple de la République de Genève avec Calvin. Il y avait eu des épidémies de peste, comme il y en a eu à l'époque, et on avait dit que certaines personnes qu'on appelait les boules pestes répandaient la maladie. C'est-à-dire qu'ils étaient susceptibles, en prenant de la graisse de cadavre, vous voyez, ils en oignaient les poignées de porte, les balustrades du...
Ah oui, et ils répandaient l'épidémie.
Ils répandaient l'épidémie, et c'était donc eux les responsables. Et il y a eu des condamnations à mort à Genève, à l'époque, sous Calvin, où les gens étaient estrapadés, étranglés et brûlés, du fait de cette dénonciation.
C'est intéressant, oui.
Voilà, donc vous voyez, ça ne date pas d'hier.
Ça ne date pas d'hier. Et enfin, last but not least, et la instrumentalisation de la religion.
Ça alors, aussi, oui. C'est très intéressant. À mon avis, c'est le plus intéressant. Nous avons dit tout à l'heure, si vous avez été attentif, que le tyran n'a pas l'autorité. Et l'autorité, oui. Si vous voulez, moi c'est ma thèse, c'est que c'est la femme qui en est dépositaire au début, et elle le doit parce qu'elle est censée avoir un lien privilégié avec le ciel. Et le tyran, qui est toujours très intelligent, parce que faut pas se leurrer, des gens Mao Tse-tung sont de grands lecteurs, sont des gens qui ont des cultures prodigieuses, bien souvent. Et il le sait pertinemment, il a compris ça. Et donc la solution qu'il va trouver à ce déficit religieux, c'est soit l'auto-déification.
Ouais.
Sous l'Antiquité, c'était ça, je suis un dieu, je suis un dieu vivant, obéissez-moi, évidemment ça aide. Ou alors, la création en fait d'une secte. Une secte. C'est-à-dire que, par exemple, Robespierre, c'est très clair avec lui, il avait mis au point, juste avant de tomber, à Thermidor d'ailleurs, il avait lancé une grande opération qui consistait à, en public, brûler la déesse une statue en bois de la superstition, et à l'intérieur, il y avait une statue métallique de la déesse Raison. Voilà. Ouais. Et alors tout ça se faisait avec pas des génuflexions, mais enfin de la musique, une liturgie en fait. Voilà. Et Staline également, il instrumentalise le cadavre de Lénine, encore exposé aujourd'hui.
C'est lui le petit père des peuples.
C'est lui le petit père des peuples, mais c'est lui aussi le prêtre, et Lénine va devenir en fait une relique qu'on va montrer, vénérer en public, etc. Parce que souvenons-nous tous que Staline a été formé par l'Église orthodoxe.
Bien sûr.
Il connaît parfaitement les mécanismes, si vous voulez, qui permettent aux détenteurs de l'autorité religieuse de se faire obéir.
Passionnant tout ça, effectivement, et aujourd'hui on peut le lire avec, et on le lit avec nos yeux d'aujourd'hui, et vraiment ça enseigne, et surtout ça apprend à rester lucide, le plus important.
Il vous reste une demi-heure pour nous appeler au 0826 300 300, à tout de suite.
Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente.
Ici Sud Radio. Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et vous avez sûrement encore beaucoup de questions, notamment Sylvie qui nous appelle de Paris. Bonjour Sylvie.
Bonjour Sylvie.
Allô, oui, bonjour.
On vous écoute Sylvie.
Moi, je vais essayer tout simplement. Merci à votre intervenant, d'ailleurs, qui vient de m'apprendre plein de choses sur la définition de la tyrannie. Mais moi, une chose qui m'a vraiment marquée,
oui.
C'est cette interdiction de penser, de réfléchir. Il y a peu consensus scientifique concernant plein de points, notamment sur la pandémie. Et pourtant, on est prié sur toutes les chaînes, toutes les radios, hormis la vôtre, enfin votre émission en tout cas, de penser uniformément. Et ça, rien que ça, pour moi, ça devrait éveiller les soupçons d'une majorité de gens.
Ouais.
Et c'est impressionnant. J'ai vu des journalistes pour lesquels j'avais du respect se transformer en censeurs. C'est à se demander si le métier de journaliste existe encore. Puisque pour moi, un journaliste est quelqu'un qui doit être curieux. Ouvrir son esprit clair. Ensuite.
Question à tout. Je le répète et je le dis. Question à tout. Ouais. Avoir question à tout. Oui, c'est
voilà,
bien.
Avoir question à tout, et ensuite on analyse, on voit ce qui est juste, pas juste, on cherche l'information, mais cette obligation à penser d'une seule façon dans les médias de manière uniforme, en fait aujourd'hui je me rends compte qu'il y a pratiquement que sur Internet ou à part deux, trois émissions par-ci, par-là, où on peut avoir du temps ou le droit de penser autrement, sinon on se fait tout simplement insulter.
Oui, c'est vrai. Voilà. Philippe Bornet, est-ce que c'est pas une démarque ça aussi ? de la tyrannie, ce côté, enfin, tyrannie ou soft ou hard, molle ou dur, c'est vrai, cette espèce de doxa absolument répétée, lancinante.
Oui, mais vous avez remarqué que les tyrans, par exemple, prenons l'exemple de Mao Tse-tung, sont de grands lecteurs. Mao Tse-tung est un lecteur compulsif, maladif. D'accord. Il a une vénération pour le livre. Et j'ai réfléchi à ça. Je crois que le tyran, si vous voulez, ce qu'il aime dans le livre, c'est justement la facilité de le contrôler. Vous voyez, le livre, finalement, c'est jamais qu'une feuille de papier qu'on jette au vent. Ils sont tirés à quelques centaines ou milliers d'exemplaires. On peut les stocker, on peut les ranger, on peut interdire leur consultation. C'est facile. Et ce schéma de contrôle de l'information, si vous voulez, il souhaite maintenant le remettre en place avec l'information digitale. Au début, Internet, c'était merveilleux. On était libre. On disait, sur Twitter, il y a quelques années, on disait ce qu'on voulait. On allait même trop loin, si vous voulez. Il y avait des insultes, etc. Mais maintenant, on est tombé dans l'excès inverse. Parce que...
Mais c'est voulu, ça. C'est
bien sûr que c'est voulu.
Non, parce qu'il n'y a pas que Internet et les réseaux sociaux. On le voit, ce que dit Sylvie, elle n'a pas tort, sur un certain nombre de médias, de presse écrite, etc. Excusez-moi, vous dites les livres, mais il y avait beaucoup plus, sous De Gaulle et sous Pompidou, et encore sous Mitterrand même, il y avait beaucoup plus de diversité à la presse écrite qu'aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. Mais les oligarques sont passés par là, ils ont racheté, racheté tous les journaux. Et par conséquent, quand vous maîtrisez le capital de la société, vous avez beau dire et beau faire. Et puis, il y a aussi une autocensure. Il y a une autocensure. Vous avez parfois des journalistes, dans certains journaux, qui s'imposent un contrôle qui va même au-delà de ce qu'on lui demanderait. Vous voyez, par prudence. Alors, si j'étais à leur place, je serais prudent également. Mais par ce biais-là, si vous voulez, c'est encore plus pesant. Plus pesant.
Et est-ce que, donc, ça aide aussi, ça aide la tyrannie, ça, d'une manière... Enfin, ça le conforte, ça la structure.
Ça la structure, parce que, si vous voulez, quand la presse est entièrement entre les mains de 5 ou 6 milliardaires, et que tous ces gens-là ont des rapports avec l'État, s'établit un capitalisme de connivence, l'expression n'est pas de moi, et donc tu me tiens par la barbichette, et donc il y a des échanges de bons procédés qui font que, en échange d'un marché, on peut concevoir que le journal du soir, à la télé, soit particulièrement favorable à tel ou tel candidat.
Donc Sylvie, comme vous avez dit, il vous appartient à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, de penser librement. C'est extrêmement important. L'esprit critique, hein, on est d'accord.
Tout à fait.
Ouais. Et c'est ce que fait Nicolai, qui nous appelle de Bastia. Pardon. Bonjour Nicolai.
Bonjour Nicolai.
Bonjour André, bonjour Michel Bornet. Alors, vous avez très très bien ficelé votre émission, parce que je trouve que tous les sujets s'emboîtent parfaitement, en fait, et s'enchaînent. Et effectivement, la tyrannie moderne, moi je voudrais faire référence à Machiavel, vous savez, conservare estate. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de prince en France. Bon, je pense qu'on est d'accord, nous avons un gouverneur tyrannique, justement, celui qui est censé être sacrifié par le prince, pour regagner la confiance de la population et toutes ces choses-là. Mais on s'en rend compte qu'aucun gouverneur, je parle des ministres, n'est sacrifié sur l'autel de la justice, et qu'au final, donc, du coup, le prince se trouve ailleurs. Et le prince, à mon avis, il se trouve justement du côté de BlackRock, du côté de Forum économique mondial, du côté de toutes ces instances-là, qui aujourd'hui sont dans une action, d'un projet idéologique, d'accord, de conversion du pouvoir économique, de ces 10 000 milliards de dollars, et voire plus si on cumule les autres, les Vanguard et compagnie, vers quelque chose de plus concret, qui est le pouvoir, en fait. Et par quoi ça passe? C'est de déposséder, en fait, les populations de leur liberté d'action, qui était ce pouvoir économique, de leur capacité d'organisation par le biais de dépossession et ensuite par le biais également d'instauration justement des systèmes de contrôle comme on a vu avec le mouvement 5 étoiles qui veut installer
à Bologne.
La Bologne et toutes ces choses-là, le contrôle, est-ce que vous triez bien vos déchets, est-ce que vous pensez bien, est-ce que vous parlez bien et tout ce genre de choses. Et je me dis quand même c'est très très insidieux comme méthode, on va vers un pouvoir tyrannique sans visage pour représenter cette tyrannie. Donc on n'a plus rien à quoi s'opposer. Si on n'a pas correctement notre ennemi, notre adversaire, on n'est pas capable de s'y opposer. Et selon moi, je ne sais pas si vous serez d'accord, dans ce cas de figure et dans cette configuration, la seule façon des populations de s'y opposer, c'est de tourner le dos, on va dire, au monde qu'ils sont en train de nous proposer, et de se réorganiser vers les communautés nouvelles, comment dire, avec une organisation économique nouvelle.
Très voilà. Intéressant, et Nicolas, très intéressant. L'historien que vous êtes, Philippe Bordet, il parle, Nicolas, et c'est vraiment, je trouve, d'une tyrannie sans tyran.
Oui,
est-ce que ça existe, ouais. Est-ce que, enfin...
Mais c'est ce que nous disions tout à l'heure. Le tyran n'a rien à gagner à se montrer en public parce qu'il est l'objet de toutes les haines. Donc pour ne pas les réveiller, il prend le masque soit d'un pouvoir collégial, soi-même, tel Satan, il disparaît dans un nuage de soufre, si ouais. Vous voulez, il se cache. Alors, on parlait de BlackRock tout à l'heure, donc, et qui est, moi, je ne connaissais pas BlackRock plus que ça avant d'écouter l'émission tout à l'heure, si vous voulez. Vous savez pas. Donc, ce sont des gens qui possèdent des milliers de milliards, et d'une certaine manière, là encore, c'est un contrôle de l'information, parce que la monnaie qu'il s'agit de contrôler, c'est une information. C'est un passage de courant électrique dans une puce, dans les deux cas, si vous voulez. Mmh. Et donc, quand on contrôle l'information, on sait aussi contrôler la monnaie. Et cette monnaie qui, autrefois, avait une réalité palpable, maintenant, qui était donc une pièce d'or, ouais. Elle devient une information qu'on peut manipuler à sa guise.
Donc ça aussi, c'est une tyrannie, la tyrannie invisible. Enfin.
Oui, oui, le tyran, il aime se masquer. Alors, naturellement, le pouvoir, ça fait partie des pouvoirs royaux régaliens, comme on dit, de contrôler la monnaie. C'est normal. Mais si vous voulez, lorsqu'on ajoute à cela la possibilité de mentir sur la valeur de la monnaie, eh bien ça vous donne un accroissement de pouvoir supplémentaire.
Oui, nous sommes maintenant avec Loïc qui nous appelle de Lourdes. Bonjour Loïc.
Oui, bonjour Loïc.
Oui, bonjour André, bonjour à votre intervenant et merci Zach de me faire passer à l'antenne. J'aimerais parler, moi, revenir un peu en fait sur essayer de mettre un peu de positif à tout ce qu'on dit. Parce que c'est vrai, tout ce qui se passe, voilà, c'est prévu par le système depuis très longtemps. C'est comme ça, de toute manière, leur plan, c'est une seule police, une seule monnaie, une seule religion. Le problème, c'est que ça n'arrivera pas. Le problème pour eux, c'est que ça n'arrivera pas au terme. On va s'en approcher. Tout le monde, les gens ont peur, mais ça va s'arrêter au bout d'un moment. Ça, c'est une évidence. C'est prévu comme ça. C'est comme ça. Après, j'aimerais revenir au bon sens et informer les gens qui vous écoutent, en fait, parce que c'est nous qui avons le pouvoir de stopper tout ça. Si nous disons non à toutes leurs mesures qui vont nous ressortir pour le Covid, leur plan ne pourra pas marcher. Et pour commencer à faire ça, il faudrait déjà que les gens sachent comment renforcer leur défense immunitaire. Parce qu'on n'a pas besoin d'être docteur pour s'intéresser au corps humain. On est tous des êtres humains et on devrait tous s'intéresser au corps humain. Donc déjà, pour commencer ça, les gens qui vous écoutent, qui ont peur du Covid, comme j'en vois tous les jours, qui ont encore leur masque et tout sur le nez, il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que le masque sur le nez, ça abaisse les défenses immunitaires. Ouais. Donc le garde tout le temps, s'il le met pour avoir peur de choper une maladie, le fait de l'avoir sur le nez tout le temps, en fait, il faudra qu'il le mette à vie, parce que dès qu'ils l'enlèveront, ils choperont tout ce qui traîne.
Oui, ce que vous dites, Loïc, c'est que les gens préparent eux-mêmes leurs mesures de résistance, je veux dire, quel que ce soit dans le domaine de santé ou économique ou autre.
Exactement, qui s'informent, parce que la plus grande force du système, c'est l'ignorance des masses. Donc c'est à nous de s'informer, c'est très bien ce que vous faites, et je vous en remercie ce que vous faites sur votre émission, mais malheureusement vous êtes trop seul, il y a CNews qui s'est mis un peu, mais ils ont vite fait machine arrière. Donc je pense que c'est à nous de se renseigner, et les premières choses à faire pour se renforcer nos défenses immunitaires, c'est commencer à se mettre au contact de la nature, tout simplement. C'est si on chope le Covid, il faut pas en avoir peur. Moi, je l'ai chopé, le Delta. Il faut prendre la vitamine D, la vitamine C et du zinc. Et puis voilà, ne pas avoir peur de cette maladie. Arrêtons d'avoir peur du Covid, parce qu'au final, c'est pas grand-chose. Personnellement, je préfère choper la gastro que choper le Covid.
Il faut
arrêter d'avoir peur, en fait. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut de l'information. Et d'ailleurs, André, j'aimerais...
Oui. Oui, allez-y.
Ouais, j'aimerais vous poser une question. Comment pouvez-vous informer, parce que tous les jours, il y a des gens qui viennent dans votre émission qui disent des choses très intéressantes. Mais ensuite, dès que votre émission passe, eh bien, on réentend les infos où c'est tout le temps la même chose qui passe. C'est tout le temps la même. Comment informer les journalistes qui appartiennent à tous ces milliardaires? Comment leur redonner leur liberté de nous informer? Parce qu'au final, eux, ils ont des enfants de la famille qui seront impactés, touchés par ça.
Bah, écoutez, je voudrais juste répondre à votre question avant de donner la parole, parce que je crois que le vrai problème, il est là, incontestablement. Et il y a une question que je poserai aussi à Philippe Bordet. Je crois, vous savez, que c'est une question de facteur humain. Je crois qu'il y a pas, il y a des journalistes, que ce soit un peu partout, qui font très bien leur boulot, d'autres qui le font moins, comme dans toutes les professions. Après, il y a des courages, des résistances, des autocensures, on en parlait, très différentes, chacun des prudences, bon, chacun réagit selon son caractère. Le plus important est que chaque qu'un d'entre vous, homme, femme, jeune, vieux, s'informe. S'informe. Exactement. Qu'est-ce que c'est s'informe ? C'est en lisant des livres, comme ceux de Philippe Bornet, comme ceux de tous les invités que je reçois, parce que je rappelle toujours que je ne reçois que des invités dont j'aime les livres et donc qui nous apportent quelque chose. Pas la peine de perdre son temps avec quelqu'un pour des polémiques absolument vaines. Donc regardons cela. Et je crois que c'est très important parce que, au fond, Philippe Bornet, c'est pas le sujet de votre livre, mais c'est en creux. Face à la tyrannie, qu'elle soit celle de Denis le Tyran, jusqu'à Mao, mais en passant par les tyrannies plus ou moins cachées, dissimulées au socle d'aujourd'hui, que faisons-nous ? Que pouvons-nous faire ?
Je n'ai pas la réponse à cette question. Si on avait vécu du temps de Cicéron ou de saint Thomas d'Aquin, il vous aurait dit que la solution c'était le tyrannicide. Il le dit clairement. Ah ouais. Il faut tuer le tyran, c'est permis. Ouais. Tuer n'est pas assassiner.
C'est légitime. Tuer le tyran est légitime.
Oui, à condition de ne pas le remplacer par un autre tyran, dit saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire, si vous tuez Robespierre pour mettre Biot-Varenne à la place, ça ne sert à rien. Mmh. Voilà. Alors, qu'avons-nous ? Eh bien, écoutez, par ce livre, si vous voulez, j'ai voulu un petit peu réveiller justement la sensibilité du public. C'est à chacun de trouver sa solution. La solution, elle passe aussi par le vote. Hein. C'est vous, André, qui avez rappelé que l'abstention était un piège à con. Alors, c'est bien
si
vrai.
Si je peux me permettre et dire un petit mot après par rapport à ça. Juste
attendez, juste un mot. Philippe Bornet finit et puis je vous redonne la parole. On vous redonne la parole.
Oui, donc le procédé, c'est évidemment les procédés légaux qu'il faut utiliser en premier, c'est-à-dire le vote, l'information, éventuellement la manifestation. Et puis le but ultime de tout cela, c'est qu'il y ait une véritable diversité dans l'information. Peut-être une loi antitrust. Par ailleurs, moi je sais que personnellement je réserve une partie de mon argent à m'abonner à des journaux dits d'opinion. Et je pense que c'est une bonne chose que la presse ait un grand nombre d'abonnés, qu'elle ait un fonds de lecteurs permanent qui lui permet de, justement de rester libre.
Oui, et ça c'est... Alors Loïc, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Si je peux rebondir, parce que là je suis pas tout à fait d'accord avec vous Philippe, je suis désolé.
Parce qu'en fait,
justement, s'abonner à des médias, si on s'abonne aux médias comme Le Monde, Libération, eh bien on fait des gens qui mettent leur masque, qui obéissent, qui ont peur du Covid et qui sont terrorisés par tout ce que dit le système. De toute manière, moi j'aimerais revenir au vote. Comme disait Coluche, si voter servait à quelque chose, ça fait longtemps que ça serait interdit. Mmh. Et par rapport à ça, on peut voir en fait que les votes, d'ailleurs, il y a un débat qui est en train de sortir sur les réseaux sociaux, comme quoi les votes auraient été truqués sur France 2, ils donnaient des votes.
Oui, ça c'est encore, et on attend que ça soit prouvé. Vous savez, moi je ne le parle de choses que quand on est sûr des faits.
Je suis d'accord, mais d'accord, des choses sûres, c'est qu'il y a le vote qui est compté numérique pour certaines personnes, qui dans un autre... Notre pays a été prouvé que ce vote était tout à fait manipulable et qu'on pouvait le truquer facilement. Il y avait eu un reportage qui était passé. Et les votes, pour moi, le sondage qu'on met depuis tout le temps, les gens pensent que le sondage sert en fait à influencer les masses. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. En fait, pour moi, les sondages permettent en fait de faire avaler la pilule plus facilement. Sinon, comment expliquer que Macron, selon les votes, aurait plus de votes qu'en 2017, alors qu'il y a eu des manifestations partout depuis 5 ans et les gens sont en colère. On nous dit que tout le monde veut faire du contre Le Pen, contre Macron, mais dans les sondages, depuis 2 mois, on nous les met tout le temps en tête. C'est juste pour faire passer la pilule aux gens. Et pour en revenir à ce que vous avez dit, je vous avais entendu parler du vote blanc, et j'avais trouvé ça très intéressant que si une personne qui se présente, s'il y a plus de votes blancs, eh bien on annule les élections et tous ces gens-là on passe à d'autres candidats. Et pour moi, le seul moyen d'arriver à reconnaître le vote blanc et à le remettre sur le marché, c'est une abstention de masse. Si dans les élections au premier tour, il y avait, imaginons, 70% d'abstention, les médias n'auraient parlé que de ça. L'élection n'aurait plus de légitimité, et à partir de là, ils auraient demandé. Mais si on continue à voter, à servir le système, mais comment s'attendre à ce que quelque chose ne change, en fait ? Ça restera toujours pareil.
Oui, alors
on fonctionne le système, donc le système continue.
Je comprends, le système, le but de tout système est de s'auto-perpétuer, ne l'oubliez jamais. Hein. C'est son but, c'est sa fonction, c'est ce pourquoi il existe. Juste un mot là-dessus, on va pas... Restez là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas oublier quelque chose, et justement, comment faire passer ça? D'abord, je ne vois pas les 70% d'abstention. Il faudrait vraiment une révolution mentale et culturelle que je ne vois pas arriver très vite, peut-être un jour. Et deuxièmement et surtout, moi je crois qu'il y a quelque chose qu'on a complètement oublié dans tout ça, c'est le référendum. Et c'est que cette espèce de d'inaction et d'inaptitude des princes qui nous gouvernent, qu'ils soient de gauche, de droite d'ailleurs, et d'en haut et d'en bas, parce qu'ils ont tellement eu peur en 2005, parce que la population française a voté à 55% pour un référendum qui n'a jamais été, enfin pour des décisions qui n'ont jamais été appliquées, que effectivement c'est là aussi, c'est difficile hein, cette histoire de pouvoir et contre-pouvoir.
Oui, mais c'était un véritable coup d'État, le référendum de 2005. C'est-à-dire que le peuple a dit avec une majorité assez forte qu'il était contre l'Europe, oui, quasiment 55%, et immédiatement on a refait passer la même question devant le Parlement qui a pris la décision inverse. Ce qui veut dire que suivant la manière dont on consulte le peuple souverain, qui est censé en tout cas être souverain dans une démocratie, la réponse n'est pas la même. Donc il suffit de choisir la bonne question et le moyen de le consulter pour que la réponse soit blanche ou noire. C'est un moyen de manipulation.
Oui, enfin en tout cas, moi j'aime beaucoup la Suisse et ses référendums d'initiative citoyenne.
Mais elle pesait aussi beaucoup à Rousseau. Rousseau disait aussi que la démocratie n'est possible que si la République est très petite. Et il la déconseillait pour la France.
Oui. On se retrouve dans un instant, vous continuez à nous appeler au 0826 300 300.
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et tout de suite avec Claudine qui nous appelle de Niort. Bonjour Claudine.
Bonjour Claudine.
Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Bernet. Et puis j'ai oublié le nom, excusez-moi. Du charmant jeune homme qui était avec vous.
Le charmant jeune homme s'appelle Augustin Moriot. Voilà.
Oui, voilà.
Dites-nous tout, Claudine. On vous écoute.
Oui, moi, cette tyrannie, on l'a bien vu pendant la Covid. Hein, je veux dire, bon, d'autant plus que les médecins, comme le mien, par exemple, ne sont encore ils n'ont encore pas pouvoir de faire des exemptions pour des problèmes de santé ou choses comme ça qui se présentent. Je lui ai demandé au mois de janvier, puisque janvier-février, il commence à être reconnu que des problèmes
des effets secondaires, etc.
Voilà, polyarthrite, choses comme ça, maladies auto-immunes qui venaient et puis qui étaient quand même assez en problématique. Nous, on est une famille, justement, avec ces problèmes-là, avec une propension à avoir des stéroses en plaques et polyarthrite rhumatoïde. Et donc, moi, j'avais dit, surtout à vos enfants, j'ai dit, surtout, vous ne faites pas vacciner parce qu'on ne sait jamais. Et donc là, au mois de janvier-février, je l'ai rappelé, je lui ai dit, bon, ben voilà, maintenant, c'est quand même avéré. Est-ce que vous pouvez nous faire un certificat d'exemption à moi et mes enfants? Il m'a répondu, ben non. Pour l'instant, je ne peux toujours pas, parce que comme ce n'est pas officiel, donc je ne peux toujours pas vous faire un certificat d'exemption. Ce qui fait que si demain, M. Macron, qui à ma grande désespérance a été réélu, désire remettre son pass sanitaire en cours, eh bien, nous allons à nouveau être des parias, des mauvais citoyens et des salauds de service. Donc, si vous voulez, ça, c'est quand même assez tyrannique, quand même, parce que tout a été verrouillé de façon à ce qu'on n'ait pas, pratiquement pas de porte de sortie. Ouais. Et c'est vraiment très grave, quoi.
Ouais, c'est très intéressant ce que dit Claudine, enfin. Et vous n'êtes pas la seule, Claudine, merci pour votre témoignage. En fait, on en parlait un peu plus tôt dans la tyrannie, même dans la dictature, mais surtout dans la tyrannie, c'est la fabrication du bouc émissaire.
Oui, absolument. Le bouc émissaire, c'est celui qui est chargé de tous les maux, n'est-ce pas, dans la Bible, et qu'on chasse de la ville après l'avoir chargé de tous les péchés. Eh bien, ce système qui permet, d'après les grands philosophes comme René Girard, de maintenir, en fait, c'est un procédé très efficace, le bouc émissaire, il a toujours été utilisé, ça permet de maintenir l'ordre dans la cité, de faire baisser ce qu'on appelle le désir mimétique. Et ce système est utilisé couramment par le tyran. Le propre du tyran, si vous voulez, c'est de diviser la société et de dresser un parti contre un autre.
Les uns contre les autres, quoi.
Voilà. Ouais. Voilà. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis comme point 1 de la définition du tyran, la manière de le reconnaître, la nullité stratégique, parce que le stratège, au contraire, c'est l'inverse. Le stratège, le bon stratège, le bon général, c'est celui qui va fédérer les énergies, qui va les réunir, les rendre compatibles, les assembler, leur proposer le même but. Et la tyrannie, c'est l'inverse, c'est la division, c'est pas la multiplication. Et c'est pour cette raison que les tyrans de l'histoire, comme par exemple Staline, sont des patates en stratégie. Staline est un déserteur au sommet de l'État. Au moment où Hitler lance son offensive, il rentre en Russie, et si vous voulez, Staline panique. Il laisse tomber son poste de commandement, il rentre dans sa datcha, et il faut que le comité central au complet vienne le rechercher quelques jours plus tard.
Mais pourtant, c'est pas lui, Staline. Enfin, quand même, la Russie a gagné, Stalingrad.
Et je crois que c'est les Russes qui ont gagné. Hein.
Oui, c'est vrai.
Le comité central est venu le rechercher. Ouais. Et puis, il y a aussi les pesanteurs proprement stratégiques, c'est-à-dire l'immensité de l'URSS.
Bien sûr.
Et puis, cette fameuse histoire de, quand même d'une Rasputitsa particulièrement précoce à ce moment de l'année. Et n'oublions pas aussi, je l'ai mis dans mon livre, j'y consacre quelques pages, que en fait la quantité de chars de l'armée allemande était assez faible comparée aux chars soviétiques.
Hitler, heureusement pour nous, a fait l'imbécilité d'aller attaquer la Russie, c'est lui, hein.
Oui.
Mais pour revenir à ça, effectivement, sur la théorie du bouc émissaire, non, parce qu'on voit très bien ce que dit Claudie, il a dit qu'il n'a pas envie de se retrouver encore si le pass sanitaire revient, parce qu'il n'est que suspendu.
Ah, là, je sais bien, oui.
Donc, on va recommencer avec une espèce de discrimination entre populations.
Oui, absolument, et je voudrais ajouter à cette auditrice, pour aller dans son sens, ouais, c'est qu'actuellement se prépare un système qui permettra de renouveler les licences d'exercice médical qui pourraient être suspendus à volonté par le pouvoir.
C'est-à-dire comment que, ça attendez,
il y aura, si vous voulez, un système de licence. C'est comme aux États-Unis, il faut avoir une licence.
Pour les médecins, vous voulez dire.
Pour les médecins, oui. Et donc, on dira aux médecins, vous n'avez plus la licence. Et on n'aura pas d'ailleurs à donner tellement d'explications. Mais le médecin, par exemple, qui signera beaucoup, c'est facile à savoir, ça, par l'informatique et la sécurité sociale, s'il vaccine très peu par rapport aux autres, ou s'il donne beaucoup de certificats de contre-indication au vaccin.
On retrouve les bons points et les mauvais points.
Oui, c'est ça. Et on lui dira maintenant, vous n'exercez plus. Voilà. Et donc, la mainmise par ce biais du Conseil de l'Ordre, car nous l'oublions pas, le Conseil de l'Ordre, c'est officiellement un ordre policier.
Alors, Philippe Bornet, juste d'un mot, tyrannie. Aujourd'hui, la tyrannie, on l'est en tyrannie ou pas, selon vous?
En tout cas, on s'en rapproche tous les jours un peu plus.
Eh bien écoutez, en tout cas, lisez ce livre, vraiment, il vous ouvrira.
Et avant qu'on ne soit en tyrannie, allez voir Philippe Bornet qui dédicacera son livre « Aujourd'hui la tyrannie » aux presses de la délivrance ce samedi de 15h à 18h à la librairie française rue Auguste Bartholdi dans le 15e arrondissement de Paris. Et puis tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.
Avec le parfum d'Air de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.